et qui nous expliquera tout à l'heure ce qu'on fait de concret une fois qu'on a ces machines virtuelles, ce IaaS, Linux, etc., etc.
Voilà.
Juste avant de rentrer sur la partie technique qui représente le cœur, hein, de ce tuto live, je vous rappelle ce que vient de dire Kevin. Si vous voulez un peu d'aide, hein, sur la partie Azure, parce que vous voulez mettre en route quelque chose, et ce n'est pas seulement du Linux, sachez qu'on a un site dédié à ça, une équipe dédiée à ça, un alias mail dédié à ça, etc., etc.
Ouais.
Et j'en parlerai plus. Le but, c'était de présenter ça très très vite. Alors maintenant, eh ben, on va retourner directement dans le portail. On va commencer à parler de ce qu'on peut faire avec ces machines virtuelles. Alors très concrètement, le portail que vous avez sous les yeux, je l'ai créé il y a 30 minutes à peu près. J'ai pris un trial pour vous montrer ça exactement. Donc il est vide. J'ai simplement déployé rapidement deux ou trois éléments pour vous expliquer les principes de fonctionnement. Ce que vous savez déjà, c'est que quand on demande à créer ici un nouvel élément dans Windows Azure, on a un truc qui s'appelle ordinateur virtuel. Ce que vous savez également, c'est que derrière ordinateur virtuel, vous avez une galerie à votre disposition et que cette galerie donne accès à tout un paquet de systèmes d'exploitation. Ce que vous savez peut-être pas, c'est comment ça fonctionne réellement en dessous. Donc, je vais commencer par vous préciser comment on fait marcher les machines virtuelles aujourd'hui sur Windows Azure, vous donner un peu de vocabulaire parce qu'on est un peu paumé les premières fois qu'on découvre ça, et vous expliquer ensuite concrètement comment on fait du Linux et d'autres éléments avec. Alors la première chose, vous savez ou vous ne savez pas que dans Azure, on a un système de stockage, donc qui s'appelle Azure Storage, dans lequel on a des tables, des blobs, des files d'attente, etc., etc. Et moi, ce que j'ai créé, c'est une zone de stockage que j'ai appelée démo. Et cette zone de stockage, elle permet de balancer tout et n'importe quoi. Donc, soit des files d'attente, soit des tables, soit des blobs. Ça, c'est la partie qui m'intéresse énormément, parce que ces blobs permettent de poser des fichiers, par exemple des VHD. Et le VHD, c'est l'unité principale de fonctionnement d'un petit produit qui s'appelle Hyper-V et qui nous sert à faire de la virtualisation sur des serveurs classiques ou sur un poste de travail comme ici. Petite note en passant pour les gens qui veulent installer Hyper-V et qui ne l'ont pas encore installé, vous pouvez l'installer sur n'importe quelle machine sous Windows 8 à condition qu'elle ait les fonctions de virtualisation au niveau du processeur, notamment un truc qui s'appelle SLAT, donc c'est le système de translation d'adresse de deuxième niveau, je ne rentre pas dans les détails. Si vous n'avez pas ça, par exemple, parce que vous avez un Core 2 Duo, sachez que sous Windows Server 2012, vous pouvez installer Hyper-V même sans cette fonction SLAT. Ça ramera. Mais vous vous en fichez, le but c'est de pouvoir manipuler facilement des VHD et couper les composants dont vous avez besoin. Voilà, donc ça c'est capable de manipuler ces fameux VHD et de les retransformer pour en faire des systèmes d'exploitation avec tous les bouts dont vous avez besoin. Maintenant, le grand principe de fonctionnement derrière, ça va être d'aller poser ces VHD aux bons endroits et au bon format. Donc ce que vous voyez ici, ce n'est pas du tout l'utilitaire classique d'administration fait par Microsoft. C'est un petit programme fait par une autre société. C'est gratuit, ça s'appelle Cloud Explorer. C'est remis à jour à peu près tous les mois. Je dois être à une ou deux versions de décalage dessus. Et ça vous permet d'explorer justement ces zones de stockage de façon extrêmement simple. Les briques dont nous avons besoin, c'est éventuellement Hyper-V, qui vous permet de faire des machines virtuelles sur votre serveur et vous prenez des disques virtuels au format VHD. Donc ça, c'est la brique qui va vous permettre de jouer avec vos disques Azure, y compris sur votre machine. L'autre élément dont vous avez besoin, c'est dans Azure, un truc qui s'appelle ici les comptes de stockage. Et les comptes de stockage représentent l'intégralité des fichiers VHD que vous allez stocker. Donc chaque fichier va être posé dans un compte de stockage. Un compte de stockage, ça a un petit nom, donc ici démo parce que je l'ai créé à la main, et ça a également une clé, que voilà. Et si vous êtes avec ce nom et cette clé, vous pouvez utiliser des petits outils tierce partie, par exemple cette chose-là, qui s'appelle Cloud Explorer, qui vous permet de saisir un nom, une clé, et d'explorer directement le compte de stockage comme si c'était un bête compte pour stocker des fichiers. C'est là que vous retrouvez vos fichiers VHD. Si vous avez un fichier VHD sur Azure, parce que vous avez créé une machine virtuelle, il sera dans ce répertoire VHD par défaut. Si vous voulez le télécharger sur votre machine locale pour jouer avec dans Hyper-V, vous pouvez. Une fois que vous avez fini dans Hyper-V, vous pouvez le réuploader sur Azure. Et dans ce cas-là, pensez simplement quand vous le réuploadez
elle uploadait comme un page blob. La documentation parle de CS Upload, qui est une autre façon de faire. Il y a plein de gens qui trouvent ça compliqué. Donc je vous cite simplement ce qu'on fait en général, c'est-à-dire simplement utiliser Cloud Explorer. Du coup, il faut qu'on finisse à la main les manipulations. Alors, un fichier, lorsqu'il est arrivé dans Azure, c'est pas encore un disque VHD, c'est juste un fichier. Donc, lorsque vous êtes dans vos machines virtuelles, vous avez à votre disposition deux façons de régler ça. Et je vais aller voir mes ordinateurs virtuels ici. Ces deux façons, ce sont des disques ou des images. Alors, un disque, c'est quoi? C'est un bête fichier VHD que je signale à Azure en lui disant ce qu'il y a dedans. Donc, je dis ici, c'est un truc. Je vais chercher dans mon compte de stockage un fichier VHD. Et là, vous retrouvez exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure dans Cloud Explorer, avec différentes zones. Prenons par exemple démo ici. Je ne sais pas si j'ai mis quelque chose dedans, ou custom VHD. Et là-dedans, vous allez trouver vos fichiers VHD. Je vais en prendre un, par exemple celui-là. Je vais l'ouvrir et je vais expliquer à Azure que là-dedans, il y a un système d'exploitation, auquel cas je pourrais l'utiliser pour booter, et je préciserai quel système d'exploitation. Ou bien, je vais lui dire non, c'est juste un disque de données, et dans ce cas-là, je vais le rattacher à une machine virtuelle déjà déclarée. Donc voilà le principe général de fonctionnement, et ça, ça crée ce qu'on appelle un disque, qui est juste ça, qui est l'équivalent du disque que vous auriez transféré. Et donc ça ne sait faire qu'une seule machine. Le nom de la machine est fixe, les utilisateurs que vous avez déclarés sont toujours là, etc., etc. Les gens qui font du Windows et qui veulent préparer un master pour cloner plein de serveurs font une opération supplémentaire sur leur VHD. Ils appellent un truc qui s'appelle sysprep et qui déprovisionne l'utilisateur, l'identité, etc., etc. On a exactement cette possibilité dans Azure. Et du coup, si vous prenez un disque sur lequel vous avez fait sysprep dans le monde Windows, ou bien utilisez un truc qui s'appelle WAAgent, donc WAAgent-déprovisionne dans le monde Linux, vous récupérez une machine qui a été déprovisionnée. Et dans ce cas-là, on ne l'appelle plus un disque, on l'appelle une image. Parce que c'est un truc qui va nous permettre de créer N machines à partir d'un même modèle. Donc voilà ces grandes règles de fonctionnement. Et une fois que vous avez ça, eh ben, vous avez à votre disposition la capacité de manipuler très rapidement des disques. Je vais vous donner un exemple. Là, j'ai dans mon VHD, je vois un tuto démo Ubuntu ici. Et en dessous, je vois un nom DNS qui est celle que je viens de créer. Je vais prendre ma tuto démo Ubuntu ici. Je vais faire copier. Je vais aller dans le répertoire démo. Je vais faire coller. Ça va très vite parce que c'est de la copie cloud à cloud. Hein. C'est juste un ordre de copie qui est fait. Et là, je récupère une machine sur laquelle je peux à nouveau travailler. Je peux redéclarer ça en tant que disque et rebooter dessus. Vous pouvez faire ça à chaud si vous voulez, avec le côté un petit peu moche que vous avez arrêté une machine sans la prévenir. Vous pouvez sinon arrêter votre machine, prendre votre VHD. Et là, vous avez quelque chose qui rebootera normalement. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme système d'exploitation ? Alors, sous Linux, on a quelques distributions que nous avons nous-mêmes testées de fond en comble et pour lesquelles, du coup, le support est capable de travailler, qui sont, des Ubuntu, des SUSE et des CentOS. Donc ça, ce sont les images principales qu'on vous propose. On a des partenaires qui s'amusent à faire des images à façon et qui ont testé le mode de fonctionnement avec Azure. Donc vous pouvez aller chez eux pour tailler un petit peu votre image et ensuite l'envoyer sur Azure. Et puis vous pouvez également créer votre propre image. Tout ce qu'il vous faut dans ce cas-là, c'est un Hyper-V en local, l'ISO, l'installation, et vérifier que quelques contraintes sont satisfaites. Donc j'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais sachez par exemple qu'on a fait des Debian et des Mageia récemment pour des clients. Et dans ce cas-là, on avait juste à vérifier que tel patch était appliqué, que la version du kernel était bonne, et faire l'installation de ce fameux agent Linux qui permet de déprovisionner les machines. Donc c'est quelque chose de relativement facile à faire. Donc vous voyez ici toute la petite documentation. Hein. Je vous mettrai les liens à la fin sur tous ces petits guides expliquant comment faire les différentes parties. Ensuite, comment est-ce que vous allez piloter la création des disques, la création des machines virtuelles, etc., etc. Soit vous le faites en clicodrome dans le portail, comme ce que je viens de faire, ce qui est très bien, mais un petit peu exaspérant à terme. Soit vous utilisez un petit outil qui s'appelle Azure. Et ce petit outil qui s'appelle Azure vous permet la manipulation de tous les éléments qui sont dans Windows Azure. Par exemple, Azure VM List devrait me rendre la liste des machines virtuelles qui sont lancées à l'heure actuelle sur mon compte Azure. Alors ça veut dire quoi mon compte Azure? Comment est-ce qu'il devine ça? Il ne le devine pas. Donc si vous faites un Azure Account Help, vous allez découvrir Azure Help Account, les fonctions de manipulation de votre compte Azure, et dedans, vous avez tout en haut un truc qui s'appelle Account Download, qu'on va regarder ensemble. Azure Account Download vous emmène sur une page qui va télécharger le fichier qui contient en gros le certificat qui prouve que vous possédez bien le compte que vous voulez manipuler. Donc cet élément-là, une fois que vous l'avez récupérer et sauvegarder, vous allez pouvoir l'importer. Donc ça, c'est un Azure Account Import. Et donc le fichier, c'est le fichier que vous avez récupéré. Je ne vais pas le refaire parce que je l'ai déjà fait sur cette machine-là. Et à la sortie de ça, vous avez maintenant accès à toute la manipulation des machines virtuelles. Donc vous pouvez les créer, les supprimer, les arrêter, les relancer, etc. etc., etc. Il reste un point important. À la sortie de ça, vous savez déployer une VM Linux, vous savez installer dessus ce que vous voulez, c'est juste une machine virtuelle, il n'y a rien de particulier. Il y a quand même un petit point qui est différent de ce qu'on a d'habitude, et je vais aller creuser sur une de mes machines virtuelles ce que je veux dire par là. Je vais prendre ici ma démo Ubuntu. Comment est-ce que je me connecte à cette démo Ubuntu en SSH? Pour me connecter en SSH, je vais avoir besoin d'utiliser le port 22. Ce port 22, il est défini ici dans le firewall. Donc imaginez qu'Azure a un énorme firewall devant qui protège toutes les machines virtuelles. Si vous voulez faire quelque chose, il faut percer ce firewall. Voilà, bah percer ce firewall, c'est pas très compliqué. Vous avez ici un petit bouton pour ajouter un point de terminaison. Ça marche aussi avec l'outil Azure en ligne de commande. Et ça vous permet de déclarer quels sont les ports que vous permettez d'accéder à l'intérieur de votre petit réseau et par quel port public ça va passer. Une fois que j'ai tout ça, donc je ne rentre pas dans le détail, mais on peut faire des choses. Notamment, il y a une petite question récurrente, c'est comment est-ce que je fais pour mettre ma clé SSH? Donc il se trouve que le format qu'on utilise n'est pas le format natif sous Linux. Bon, voilà, les cultures sont un peu différentes. Donc vous avez dans la doc un mode d'emploi exact expliquant comment convertir, générer, etc., etc. Donc pareil, dans les URL, on vous mettra cet élément-là. Et après, qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette machine? Elasticsearch, par exemple, écoute sur HTTP et il doit être sur le port 9200, si ma mémoire est bonne par défaut.
Oui, c'est ça.
Voilà, ben, effectivement, donc Renaud va nous raconter en détail. Donc vous voyez ici, et je vais bêtement mater la doc hein, des différents produits que je veux installer. MongoDB a une liste de ports également qui est déclarée en fonction du mode de déploiement que vous utilisez. Alors je vois qu'on coupe un petit peu, voilà. Et donc ça vous donne la recette, c'est-à-dire qu'est-ce que vous devez ouvrir sur vos points de terminaison. Redis, de la même façon, va avoir lui aussi son port de communication, je n'ai plus en tête par défaut. Et du coup, vous allez pouvoir à chaque fois comme ça, voilà, il est là, 6379. Et grâce à ça, et ben, vous allez pouvoir établir des communications entre le reste du monde et votre machine. Vous pouvez aussi déployer N machines dans un petit réseau, où elles sont toutes ensemble, et dans ce cas-là, tout se voit en permanence. Il n'y a pas de firewall pour les machines déployées ensemble à l'intérieur d'Azure. Elles se voient, par contre. Sinon, c'est plus délicat. Ça, c'est la théorie. Maintenant, je voudrais parler un tout petit peu de pratique, et je voudrais demander à Renaud de nous parler de ce qu'il fait, d'abord.
D'accord. Moi, je suis l'un des cofondateurs de Focusmatic. On fait de la business intelligence pour les gens du marketing. Donc, ce que l'on fait, ce slide est une présentation très haut niveau de ce que nous faisons. En fait, nous acquérons des données publiques. Donc, c'est des réseaux sociaux, des pages web, des informations qu'on peut acquérir de manière très simple. et des données privées aussi que nous fournissent nos clients. Nous croisons ça dans un moteur d'analytique, d'accord? Et nous avons un serveur de présentation qui permet de tracer des rapports, des graphes, des pie charts, etc., etc. Et on a tout un système d'alerte aussi derrière qui permet de faire de ce qu'on appelle de l'actionable business intelligence, qui permet de dire moi je suis un analyste, mais je n'ai pas envie de regarder en permanence mes rapports pour savoir ce qui se passe. J'ai envie que le système me dise qu'il y a des choses qui se passent cachées à l'intérieur de ces masses de données en fait. Donc voilà ce que nous faisons. Nous sommes une très jeune start-up, nous avons démarré cette année, trois fondateurs qui venons tous du monde de la business intelligence dans la finance, où nous agrégions des millions d'informations à la seconde et des agrégions des millions d'informations à la seconde, et nous faisons ça aujourd'hui dans le marketing.
D'accord. Voilà. Alors vous n'êtes pas tout à fait Windows comme culture, parce que donc juste avant tuto, on a fait une petite liste. Ouais. Et voilà, donc je vais te demander d'expliquer un poil plus en détail cette longue liste, mais voilà les composants que vous utilisez, et aujourd'hui c'est sur Azure.
Oui, voilà, donc nous utilisons Azure, on a deux plateformes qui tournent sur Azure, une plateforme de test, une plateforme de prod, de production. Ce qu'on appelle plateforme, c'est plusieurs machines qui interagissent entre elles. En fait, on aime beaucoup les virtuelles machines parce que ça nous permet, dans un premier temps, en fait, d'isoler complètement un service. C'est-à-dire, en fait, pas faire de colocation au sein d'une même machine et vraiment dimensionner la machine en fonction du service. Et ça permet, justement, de ne pas avoir de réaction à contrôler en fait,
c'est-à-dire une bataille de ressources entre
les différents process. Donc ça c'est très bien. On fait beaucoup de R&D aussi, donc on est tout le temps en train de changer. On utilise Elasticsearch et Mongo, mais rien ne dit qu'on va pas utiliser une autre technologie ou remplacer une technologie. Donc ça permet justement de créer des nouvelles VM, etc. très facilement. Donc en fait notre plateforme aujourd'hui. Si je décris une plateforme, l'installation, on est sur un OS Ubuntu. Et on déploie tout, on n'utilise pas les disques virtuels, vraiment. Enfin, c'est-à-dire, on ne fait pas de fichiers VHD, mais on utilise Chef, qui est une manière d'installer des stacks logiciels très rapidement. Ça stocke des scripts et ça permet d'avoir un serveur où il y a tous les attributs. Il y a à la fois des recettes qui sont installées, donc, c'est-à-dire tous nos stacks logiciels, et des attributs. C'est-à-dire par exemple une stack logicielle mais lancée de telle manière. Donc ça nous permet en fait très vite de relancer la machine virtuelle. Enfin, on garde la machine virtuelle mais on relance notre logiciel ou on update notre stack très vite sans changer le disque dur. On change seulement les attributs et les.
Donc en deux mots là-dessus, vous avez un serveur central qui tient toutes les configurations des voilà. autres serveurs.
Ouais.
Et quand vous créez une nouvelle machine, vous la créez vierge, telle Exactement. Qu'elle devrait être, et vous ouais. la signalez au serveur central. Qui mm-hmm. va s'occuper de compléter tous les éléments nécessaires à l'installation.
Voilà, alors en fait, Chef bootstrap la machine. Donc du coup, en fait, la machine devient une sorte de un client de Chef. Et ensuite, c'est Chef qui contrôle la machine et qui va dire installe ci, installe ça, reboot-toi là-dessus, etc., etc. Voilà.
D'accord.
Donc voilà pour l'installation. Et on utilise Chef donc pour faire toute cette stack qui est décrite en dessous. Donc, de l'acquisition de données, comme j'ai montré dans la slide précédente, on fait de l'acquisition de données publiques. On fait ça principalement en Java. Et donc, on récupère ces données et on envoie ça vers une queue 0MQ et vers MongoDB. Voilà, donc on utilise MongoDB comme base de données.
Donc, juste, prends le temps pour les gens qui sont juste sur du LAMP et du PHP classique de donner D'accord. un petit peu l'indication complémentaire alors, à chaque fois.
Alors, pardon, je. Alors, en fait, MongoDB, c'est une base de données de type NoSQL. En fait, c'est un petit peu la tendance actuellement. On utilise ça parce que, en fait, on est dans le monde du, ce qu'on appelle du big data, donc avec des sources très hétérogènes et très volumineuses. Donc, on veut pas s'encombrer des problèmes de transactionnalité qu'on a sur les bases SQL classiques. Et on veut pas aussi s'encombrer des problèmes d'hétérogénéité, en fait, d'avoir un schéma pour chaque table, etc. Donc, en fait, on stocke directement les documents tels qu'ils arrivent et tels qu'ils sont présentés par Internet en général. Donc MongoDB permet cela. Donc ça c'est on est assez content des performances de MongoDB aujourd'hui et on fait du stockage et de l'agrégation, stockage de données brutes et on fait de l'agrégation parce qu'on vient du monde de l'agrégation, de la business intelligence qui est souvent corrélée à l'agrégation. Calcul de, on récupère toutes ces données brutes et on recalcule des données, on classifie selon plusieurs dimensions toutes ces données.
Zero MQ, vous les faites faire quoi?
Alors Zero MQ, c'est une queue de données en fait. On l'utilise comme une queue de données, ça fait beaucoup de choses. Ouais. Mais aujourd'hui, on l'utilise comme une queue de données, comme un Active MQ, un Rabbit MQ, ou type co rendez-vous, ce genre de technologie. Qui permettent simplement d'envoyer dans des queues de données en fait de l'information d'un point à un autre. Et là en fait on fournit l'information qui arrive en temps réel, puisqu'en fait on fait du temps réel sur toutes nos analyses de notre serveur d'acquisition de données à notre serveur de présentation.
D'accord.
Voilà.
Ensuite, donc MongoDB pour le stockage et l'agrégation, ça on a vu. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la partie indexation? Donc, vous avez un autre joueur dans le système qui est Elasticsearch.
Alors voilà, Elasticsearch, comme je vous ai dit, on fait beaucoup d'agrégation, etc. Mais parfois, on a envie de savoir ce qui est. On a envie de faire des requêtes assez complexes au niveau des données brutes. Et Elasticsearch permet d'indexer tout le texte, tous les champs, principalement d'objets JSON, de type JSON. Je pense que tout à peu près, enfin, les gens connaissent à peu près ce format.
Ouais, sinon, on fera un tuto live spécial JSON. Donc, t'inquiète pas.
Voilà. Donc, on envoie ces documents qui sont des sources hétérogènes. On demande à Elasticsearch d'indexer ça, et en fait, on offre à la fois des données, des rapports agrégés, mais on offre aussi la possibilité de se focaliser dans des petites parties de documents agrégés, c'est-à-dire sur un pic par exemple, ou dans un quart de pie chart, ou ce genre de choses-là. Et donc du coup, on va récupérer toutes les données en dessous, et on permet à l'utilisateur de dire: ah oui, mais les données en dessous, comme c'est les données qui sont publiques et on a beaucoup de bruit en fait qui est généré par le web. On a besoin de ça pour vraiment identifier ce qui est la donnée qui a du sens pour le client et la donnée qui n'en a pas. Donc du coup, le client peut vraiment dire oui, je veux ces données-là, mais je ne veux pas ces données-là, etc. Et donc du coup, reconfigurera la plateforme pour dire voilà, donc c'est la plateforme, je veux la reconfigurer sur.
Alors il y a peut-être d'autres choses qui vont vous faire réagir. Donc Elasticsearch repose sur quelque chose qui s'appelle Lucene, qui est un moteur d'indexation, qui est un moteur Java initialement, qu'on trouve dans plein d'environnements. Et vous connaissez peut-être aussi Solr, qui est une autre façon de réencapsuler Lucene. Mm-hmm. Donc en général, on choisit Solr ou Elasticsearch.
Voilà, oui. Il y a aussi une autre technologie de LinkedIn, ouais, récemment, ça s'appelle SenseiDB, qui font des choses très similaires aussi. Voilà.
Voilà. Et enfin, sur la partie présentation, et donc vous avez choisi Node pour faire ça?
Voilà, oui, parce que en fait, chez nous, on découpe les développeurs. Les fondateurs font beaucoup de back-end, c'est-à-dire Java, etc., et de front-end. Donc, quand on recrute, parfois, c'est plus facile de recruter que pour faire de la présentation que pour faire du back-end. Donc, du coup, en fait, Node.js, c'est une technologie qui permet de parler en JavaScript côté serveur, et donc de connaître un seul langage. Un qui tourne dans le browser et un qui tourne au niveau serveur. Donc du coup, ça permet aux gens qui connaissent le JavaScript de ne pas switcher d'un langage de programmation à un autre. Et c'est vraiment une super technologie qui est très récente, mais on en est très content. Et il y a beaucoup de une grosse communauté très active là-dessus. Serveur de présentation qui va présenter toutes ces données en live.
Alors juste pour info, on a dans Azure la partie website qui fait tourner de façon native du Node.js. Et pour le coup, il n'y a pas de machine virtuelle. On déploie juste le code ou on fait pointer sur un repo GitHub ou assimilé. Monitoring. Alors là, pour moi, c'était un petit peu une surprise au départ parce que je m'attendais à trouver MMS en face de Mongo. Mais en fait, vous êtes parti sur Moonin.
Ah oui, on est parti sur Moonin parce que en fait, MMS, ça permet de monitorer Mongo et on cherchait quelque chose qui... En fait, quand on crée une nouvelle entreprise, on doit ramener plein de technologies au sein. Et du coup, en fait, on se rendait compte qu'on avait une explosion d'outils et on veut rester simple à chaque fois. Et Moonin permet de monitorer à la fois Mongo, à la fois Elasticsearch, à la fois nos process Java, à la fois nos process et tout, à la fois ZeroMQ et tout ce qu'il y a autour. Donc, en fait, on utilise Moonin qui récupère des données, qui les agrège et qui les présente de façon très simple et qui permet de setter des alertes. Et donc, c'est ce que l'on fait. Donc, sur notre plateforme de test et de production. Voilà.
D'accord, donc vous avez quand même réussi à bâtir un système à 100% non Microsoft, parce que
ouais, voilà.
Ubuntu, c'est pas ce qu'on utilise, Chef non plus,
et en plus
Java, Mongo, Mongo tourne bien sous Windows, 0MQ, Elasticsearch, Node et Munin. Donc juste pour info, on a plein de composants identiques à l'intérieur d'Azure, mais du coup ça vous permet de garder votre stack à l'identique et de choisir l'endroit où vous déployez assez facilement.
Voilà, c'est ça.
Ça a été un cauchemar ou ça a fonctionné tout ça sur les VM?
Ça a fonctionné, ça a bien fonctionné. On avait échangé par mail aussi à propos. En fait, sur MongoDB, il y avait des cas où le load balancer en fait nous rejetait, où il y avait des petites configurations un petit peu spéciales, mais il y a de plus en plus de documentation, donc non, c'était pas très compliqué. Non. Ouais.
Donc la principale chose à creuser quand on veut monter ce type de stack, c'est penser à la configuration réseau, en gros. Le reste, c'est du Linux à l'identique. Les techniques que vous connaissez déjà sur d'autres environnements vont marcher à l'identique. Le seul endroit où vous allez devoir regarder un petit peu, c'est est-ce que vous créez un réseau virtuel dans lequel tout le monde peut parler avec tout le monde, ce qui permet d'avoir des systèmes où tout est grand ouvert et puis c'est vite fait de déployer, ou bien est-ce que vous voulez un poil plus de contrôle, et dans ce cas-là, vous allez passer par la définition de point de terminaison, et donc vous allez spécifier dans le load balancer ce qui rentre et ce qui ne rentre pas, ce qui a l'avantage de pouvoir typiquement faire du load balancing de trafic, par exemple, sans avoir à s'installer un HA proxy ou un truc comme ça, mais qui du coup demande à effectivement énumérer et bien vérifier les modes de fonctionnement de chacun des morceaux.
Et donc aussi, ce qui est très agréable ici, c'est que donc en fait toute cette stack là, Java, en fait il y a 4 machines qui tournent aujourd'hui sur chaque plateforme, et il se trouve que parfois on a des clients qui arrivent très vite. Donc du coup en fait on va juste dupliquer notre module d'acquisition de données, on va dupliquer notre module de Mongo, etc. Et donc en fait la plateforme reste la même, déployée sur un... Dans le futur, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais dans un virtual network Azure. Et donc, ça permet d'être très élastique sur notre consommation. Quoi.
Alors ça, c'est un point très intéressant. Je voudrais juste rappeler là-dessus l'élément clé que vous avez utilisé pour ça, c'est Chef. Parce que sinon, refaire ces machines virtuelles, on peut le faire avec le mécanisme de VHD dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ce qui est relativement facile à faire, et si vous avez toujours les mêmes briques, eh bien, c'est simple à faire. L'avantage de Chef, c'est qu'il permet de coordonner et d'avoir des rôles que vous attribuez, et donc de déployer deux ou N machines avec un profil précis.
C'est ça.
Ouais. Donc, c'est le comment partir un peu du IaaS et aller vers un petit bout de passe déjà avec des machines virtuelles pures. Ok, eh ben, un grand merci pour cette illustration de ce qu'on peut faire quand on n'est pas d'un monde Microsoft traditionnel. Donc la prochaine fois, on parlera de choses radicalement différentes. Donc je vous en laisse un peu la surprise parce qu'on a encore deux sujets qui sont en débat. Est-ce qu'on a eu des questions spécifiques?
Non, tout avait l'air assez clair a priori. Donc,
c'est pas vrai, les gens voyaient rien, on n'avait pas d'image au début.
Au début. Toujours est-il, ceux qui voient la vidéo en rediffusion, donc n'oubliez pas l'adresse qu'on a présentée au début. Donc c'est azureqr@microsoft.com. Et c'est à cette adresse que les experts Microsoft, dont Pierre, pourront vous répondre.
Bien, et ben merci à tous. Et donc, on espère vous retrouver par mail, questions, etc., etc., ou bien au prochain tuto. Un grand merci. Et donc, à la prochaine pour tous.
Au revoir.
Au revoir.